Et nous débutons avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Déjà émaillé d'interpellations sur le pouvoir d'achat, le périple d'Emmanuel Macron sur les traces de la Grande Guerre a été perturbé hier par une nouvelle polémique, cette fois sur l'opportunité de rendre hommage à Pétain dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Décryptage dans un instant.
Sa condamnation à mort pour blasphème contre l'islam avait été annulée la semaine dernière, mais ce n'est que cette nuit que la chrétienne pakistanaise Asia Bibi a pu sortir de prison. Où peut-elle aller ? La France se dit prête à l'accueillir, précision dans ce journal.
C'est peut-être l'une des premières conséquences de la percée démocrate hier lors des midterms. Donald Trump a limogé cette nuit son ministre de la Justice par crainte de voir relancer la tentaculaire enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et l'équipe du candidat républicain lors de la dernière présidentielle. Donald Trump qui s'en est une fois de plus pris hier à des journalistes, vous l'entendrez.
Et puis dans une dizaine de minutes, Catherine, la question du jour, je sais que la voile vous fait rêver, bien route du Rhum, la technologie a-t-elle pris le pas sur les navigateurs? On posera la question à Didier Ravon, il est journaliste au magazine Voile et Voilier.
Elle est désormais libre et se trouve dans un lieu sûr. Asia Bibi, cette chrétienne condamnée à mort pour blasphème dans le pays musulman ultra-conservateur, a pu sortir cette nuit de prison une semaine après son acquittement par la Cour suprême pakistanaise. Asia Bibi se trouve toujours dans le pays, affirme un porte-parole du ministère des Affaires étrangères pakistanais. Alors que la vie d'Asia Bibi était en danger et que sa famille avait sollicité ces derniers jours l'aide de plusieurs pays occidentaux pour les accueillir, on s'approche peut-être d'un épilogue, Marie-Pierre Véro.
Tout commence un après-midi de juin 2009. Asia Bibi cueille des baies dans un champ du Punjab. La chaleur est étouffante, elle s'approche du puits et s'y désaltère. Sacrilège. Il est réservé aux musulmans. Une dispute éclate. La jeune femme est accusée de blasphème par ses voisines musulmanes. Condamnée à la mort par pendaison, elle attend durant 8 années dans une petite cellule sans fenêtre, sa famille devant faire 15 heures de route pour lui rendre visite. La semaine dernière, lueur de joie pour la première fois, la Cour suprême l'acquitte. Mais 3 jours de manifestation des islamistes radicaux font céder le pouvoir. Asia Bibi reste en détention. Une requête en révision de son acquittement peut être déposée, assortie d'une interdiction de sortie du territoire. Jusqu'à ce nouveau coup de théâtre, hier, une semaine pile après son acquittement, Asia Bibi est libre. Au fil des mobilisations internationales, cette ouvrière agricole chrétienne, cette paysanne analphabète d'un petit village du Punjab, est devenue la victime emblématique de la loi sur le blasphème, souvent détournée à des fins de vengeance personnelle, puis l'icône test du respect des droits de l'homme par le Pakistan. Reste maintenant à savoir où elle pourra trouver asile. Ces derniers jours, plusieurs pays, dont la France, se sont dit prêts à l'accueillir.
Et de son côté, le gouvernement italien s'est dit prêt à aider à trouver une solution pour garantir un avenir à Asia Bibi. Sa famille regarde également du côté du Royaume-Uni, des États-Unis ou du Canada. Mais l'important est qu'elle puisse enfin sortir du Pakistan, comme l'explique Anne-Isabelle Tollet à la tête du comité international Asia Bibi.
La famille d'Asia Bibi me dit, quelle que soit la destination en dehors du Pakistan, elle est la bienvenue et le plus rapidement possible. Donc la France peut être évidemment une première étape, mais ensuite on peut envisager toutes sortes de coopérations transatlantiques par exemple, et je pense au Canada. Mais bien sûr que Asia Bibi va être accueillie en France, et même si ça dure quelques semaines, le temps de trouver un point de chute définitif pour que la famille soit le mieux possible, c'est-à-dire avec une communauté pakistanaise autour d'elle, parce que la famille ne parle pas l'anglais, elle ne parle que l'ourdou, donc c'est compliqué. Et le but du jeu, c'est quand même qu'ils soient bien là où ils vont atterrir.
Anne-Isabelle Tollet à la tête du comité international Asia Bibi, auteur notamment de « La mort n'est pas une solution » consacrée à cette affaire. Amnesty International accuse ce matin les rebelles yéménites de recourir délibérément à la militarisation des hôpitaux et de poser des mines dans la grande ville portuaire d'Hodeïda où des combats les opposent à une coalition pro-gouvernementale sous commandement de l'Arabie Saoudite, coalition responsable de la mort de 32 civils le mois dernier, toujours selon Amnesty. Ces propos ont notamment indigné le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Juste avant, le Conseil des ministres délocalisé hier à Charleville-Mézières, Emmanuel Macron a jugé légitime de rendre hommage au maréchal Pétain un samedi alors qu'une cérémonie militaire doit se tenir aux Invalides à Paris dans le cadre du centenaire de l'armistice de 1918. Le chef de l'État a estimé que Pétain avait été, pendant la Première Guerre mondiale, un grand soldat avant de conduire des choix funestes pendant la Deuxième en collaborant avec avec le régime nazi. Polémique donc, le CRIF dit ne retenir qu'une seule chose de Pétain, c'est qu'il a été, au nom du peuple français, frappé d'indignité nationale en 1945, condamné à perdre tous ses grades militaires. Pour mettre fin à la controverse, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a expliqué hier qu'il n'avait jamais été question de rendre hommage à Pétain samedi. Bonjour Frédéric Saïs.
Bonjour à tous.
Assiste-t-on à un rétropédalage de l'exécutif, rétropédalage qui ne dit pas son nom?
Alors au minimum, on joue sur les mots. L'exécutif insiste sur le fait qu'il n'y a jamais eu d'hommage spécifique au maréchal Pétain prévu. Et c'est vrai, évidemment, il a toujours été question ce samedi d'un hommage militaire et collectif au commandement français de la Grande Guerre, parmi eux Philippe Pétain pour son rôle dans la bataille de Verdun. Mais l'Élysée a précisé hier soir, après le déclenchement de la polémique, que seuls 5 maréchaux seraient honorés par une gerbe de fleurs, 5 maréchaux qui reposent aux Invalides et donc pas le maréchal Pétain dont la tombe est à l'Île-Dieu. Alors y a-t-il eu un double discours, Catherine, ce qui est toujours dommageable? Sur ce sujet, Emmanuel Macron a mis en avant la complexité de l'histoire, il a tenté de mettre en garde contre l'anachronisme, rappelant que c'est précisément parce que Pétain jouissait de ce prestige de la Première Guerre mondiale qu'il a ensuite pu jouer ce rôle en 1940, ce qui est au passage la position de tous les présidents français, de De Gaulle à Jacques Chirac. Écoutez, c'était lors de la commémoration de Verdun en 2006.
Un homme a su prendre les décisions qui conduiront à la victoire. Il restera comme le vainqueur de Verdun. Cet homme, c'est Philippe Pétain, hélas. En juin 40, le même homme, parvenu à l'hiver de sa vie, couvrira de sa gloire le choix funeste de l'armistice et le déshonneur de la collaboration.
Alors Emmanuel Macron a pris une deuxième fois la parole sur le sujet hier après-midi, ce qui prouve que la prise de parole initiale était à minima ratée. Il a précisé qu'il ne pardonnait rien, mais ne gommait rien de l'histoire. Et il a rappelé, je cite, qu'il a toujours été très clair sur la responsabilité de l'État français au cours de cette période.
Mais ce n'a pas empêché Frédéric, l'opposition, de s'indigner.
Exactement, c'est une très large condamnation. Jean-Luc Mélenchon, cette fois c'est trop, l'histoire de France n'est pas votre jouet, monsieur Macron. Florian Philippot du Parti Les Patriotes, une faute majeure du président de la République. Benoît Hamon du Mouvement Génération dénonce une errance éthique et morale. Silence du Rassemblement National. À droite, Philippe Gosselin estime justifier la position d'Emmanuel Macron. Et puis, on citait les anciens présidents. L'un d'entre eux s'est démarqué hier soir via Twitter d'Emmanuel Macron. François Hollande estime que l'histoire n'isole pas une étape, même glorieuse, d'un parcours militaire. Elle juge l'immense et indigne responsabilité d'un maréchal. Le chef de l'État aura sans doute l'occasion de répondre. Il est l'invité ce soir de France 3.
Frédéric Saïsson vous retrouve à 8h16 pour votre billet politique sur un Premier ministre nommé Emmanuel Macron. Deux immeubles voisins de ceux qui se sont effondrés lundi à Marseille, faisant au moins 6 morts, vont être démolis par les autorités aujourd'hui. Une opération qui va entraîner la suspension des opérations de recherche de 2 autres victimes potentiellement ensevelies. Accusés d'inaction face au scandale de pédophilie, les évêques de France ont annoncé hier la création d'une commission indépendante chargée de faire la lumière sur les abus sexuels sur mineurs dans l'église depuis 1950.
7h08 sur France Culture, la suite du journal de Catherine Dutu. C'est peut-être l'une des premières conséquences de la percée démocrate au Congrès. Donald Trump a limogé cette nuit son ministre de la Justice.
Jeff Sessions était sur la sellette aux États-Unis depuis qu'il s'est récusé l'an dernier dans la tentaculaire enquête sur une éventuelle collusion entre la Russie et l'équipe de campagne du candidat Trump lors de la dernière présidentielle. Enquête qui pourrait être relancée, et c'est la crainte d'ailleurs de la Maison Blanche, puisque les démocrates ont repris le contrôle de la Chambre des représentants à l'occasion des midterms. Le ministre de la Justice a donc été limogé. Donald Trump a par ailleurs retiré hier l'accréditation d'un journaliste de CNN à l'issue d'une conférence de presse très tendue qui en dit long sur les rapports entre le président des États-Unis et la presse, Franck Madvon.
Après une petite demi-heure de conférence de presse, le correspondant de CNN, Jim Acosta, demande à Donald Trump s'il ne diabolise pas les migrants. Laissez-moi diriger le pays. Le journaliste insiste. Ça suffit, lui demande Trump. Lâchez le micro.
CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person.
Vous êtes une personne horrible, grossière. Vous ne devriez pas travailler pour CNN.
When you report
report fake news, you are the enemy of the people.
Quand vous rapportez des fake news, vous êtes l'ennemi du peuple. Un peu plus tôt, Donald Trump s'est félicité d'une grande victoire électorale malgré des médias très hostiles. Le visage fermé, il sermonne la presse.
Sit down. I didn't call you.
Il accuse une journaliste l'interrogeant sur ses liens avec les nationalistes blancs.
It's a racist question.
De poser une question raciste.
I get extremely inaccurate coverage. I can do something that's fantastic and they'll make it look like not good.
Je fais l'objet d'une couverture médiatique très inexacte. Si je fais quelque chose de fantastique, ils en font quelque chose de mauvais.
The tone can get better.
Donald Trump promet en conclusion que le ton peut s'adoucir.
It begins with the media.
Mais que cela doit commencer par les médias.
Donald Trump qui manie par ailleurs la carotte et le bâton face à l'opposition démocrate, qui contrôle, je le rappelle, la Chambre des représentants désormais. Nous pouvons faire des choses ensemble, je suis pour le travail bipartisan, a affirmé Donald Trump hier. Il faudra notamment passer des accords en matière de santé, d'immigration ou d'infrastructure. Mais le président américain met aussi en garde les démocrates, qui prendraient la tête d'une de commissions parlementaires et qui pourraient relancer des enquêtes sur l'ingérence de la Russie dans la dernière présidentielle ou sur ses impôts. « Je contre-attaquerai », a déjà prévenu Donald Trump. Le thème de Love Story, c'était lui et sa partition lui avait valu un Oscar en 1970. Le compositeur Francis Lai est mort à l'âge de 86 ans. Il laisse derrière lui des mélodies inoubliables comme celle mythique du film Un homme et une femme. Parole signée de son ami Pierre Barou, Francis Lai, musicien attitré de Claude Lelouch.
Je viens de perdre l'homme de ma vie. Je viens de perdre l'homme de ma vie, l'homme qui a fait battre le cœur de tous mes films. Voilà, et... c'était un homme merveilleux, voilà, qui avait tous les talents, un génie de la musique, sûrement un des plus grands mélodistes que j'ai eu la chance de rencontrer, voilà. Donc, vous savez, quand on travaillait ensemble, on travaillait pas. Je lui racontais mes films en premier, c'était la première personne à qui je racontais mes films, et après, lui, une semaine après, il me racontait le même film avec des notes de musique, voilà. Et puis après, on travaillait beaucoup. Hein. On a fait joujou avec l'image, avec la musique.
Claude Lelouch, qui avait récemment travaillé avec Francis Lai sur de nouveaux enregistrements pour la suite d'Un homme et une femme, actuellement en tournage. Francis Lai, qui avait composé la musique d'une centaine de films, il avait signé plus de 600 chansons pour Serge Reggiani, Nicoletta, Johnny Hallyday ou encore Yves Montand pour son célèbre « À bicyclette ». Des notes bouleversantes. Jusqu'au merveilleux générique du cinéma de minuit qui a peut-être contribué à votre éducation cinématographique sur France 3.
Moi, je pensais que vous alliez parler de l'autre musique qui avait contribué à notre éducation.
À savoir ?
Cette musique romantique, Catherine.
Love Story, j'en
oui,
parle.
Oui, bah voilà, c'est une autre forme d'éducation.
Le compositeur Francis Lai, qui est mort, je le rappelle, à l'âge de 86 ans, ses immortelles bandes originales résonnent dans nos cœurs, écrit le ministre de la Culture, Franck Riester. En 2012, il se confiait dans l'émission Le Rendez-vous, archive à retrouver en une de franceculture.fr. Le temps de ce jeudi 8 novembre, nuageux et quelque peu ensoleillé, au meilleur de la journée, il fera entre 10 et 14 degrés au nord de la Seine, 12 à 17 degrés en général ailleurs, jusqu'à 20 dans le sud-est.